Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. À trois jours du premier tour, les 11 candidats vont se retrouver ce soir sur France 2. Dernier round télévisé, un quart d'heure pour chacun en direct, mais séparément. Derniers échos de campagne dans cette édition avec Ludovic Piétenu et Stéphane Robert. Au Venezuela, au lendemain de vastes rassemblements au cours desquels trois personnes ont été tuées, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations contre le président Nicolas Maduro, successeur d'Hugo Chavez. Analyse de la situation avec Nadine Epstein. L'ouverture devant la cour d'assises spéciale de Paris du procès d'une vingtaine d'hommes suspectés d'appartenir à la filière djihadiste dite Khan Torsi. Ils sont soupçonnés d'être notamment les auteurs d'un attentat contre une épicerie cachère en 2012, compte rendu de Florence Turme. Et puis dans un entretien au Monde, Arnaud Lagardère annonce ce matin qu'il va reprendre la présidence d'Europe 1 à la place donc de Denis Oliven, l'invité de la séquence interview. Julien Salingue, qui est professeur en sociologie des médias, soutien de Philippe Poutou. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Gesbert.
Quelle place pour la culture et le patrimoine durant cette campagne présidentielle? On en parle avec nos deux invités en dialogue, en discussion, l'économiste Françoise Benhamou et le directeur du 104, José Manuel Consalves. Ils nous rejoindront à partir de 12h55.
Et voilà donc que la campagne présidentielle s'achève. Dernier tour demain, dernier jour demain. Donc après l'émission de France 2 ce soir, l'heure est au dernier mot d'ordre. Les quatre candidats qui sont placés en tête dans les sondages s'efforcent de défendre l'idée en général d'un vote utile. Les autres tentent de sortir précisément de cette logique et vantent un vote d'adhésion. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors exemple de la première posture, François Fillon qui dit que ce matin que voter Le Pen c'est faire élire Macron. Nicolas Dupont-Aignan lui dit, lui, face à Le Pen ou Macron, Fillon perd à tous les coups, donc votez pour moi. Et puis exemple de la seconde attitude contre le vote utile, Benoît Hamon hier soir qui appelle à résister précisément à ce vote dit utile. Les candidats auront donc ce soir à tour de rôle 15 minutes pour convaincre et chacun aura à cœur de délivrer le dernier message, son dernier message aux électeurs.
Oui, dernière fenêtre médiatique sur un média de masse, la télévision, en prime time dès 20h dans un exercice cathodique d'une forme inédite sous la 5ème République, comme ce fut le cas déjà lors du débat à 5 puis du débat à 11. Cette folle présidentielle 2017 nous aura apporté son lot de nouveautés plus ou moins réjouissantes. Sur les 11 candidats, 4 d'entre eux au moins répètent cet élément de langage. Ils se voient, ils en sont sûrs, ils seront au second tour. C'est le cas par exemple de François Fillon, ce matin dans un long entretien au Figaro, il prévient les électeurs de la droite républicaine tentés par un autre candidat. Vous l'avez dit que s'ils votent Le Pen, ils auront Macron. Il précise aussi s'ils votent Dupont-Aignan, ils auront aussi Macron. Bref, vu cette configuration aux allures de mouchoir de poche, plus que lors de tout autre scrutin, aucune voix ne doit manquer. Stratégie assez classique de mobilisation dans ces derniers jours, dans ces derniers mètres. On en parlait ici même en début de semaine, où les candidats reviennent aux fondamentaux. On a vu par exemple Marine Le Pen revenir fort lundi soir au Zénith de Paris et hier soir à Marseille sur le sujet qu'affectionne sa base électorale, l'immigration. Mais tous joue au jeu préféré de cette présidentielle, cette espèce de jeu de bonneto, de mécano à s'y perdre, à en devenir cinglé, où chaque Français s'est mué en analyste politique, en adepte du vote stratégique, autrement appelé vote utile. Benoît Hamon, hier soir, place de la République, Benoît Hamon semble-t-il principale victime de ce vote utile, a bien mis en garde, ou tenté de mettre en garde ses électeurs en les appelant à suivre leurs convictions. C'est toute l'importance du rôle des indécis, le rôle déterminant des indécis autour de 28%, nous disait hier l'Institut Ipsos. En 2002, rappelons-le, Antoine, 2002 qui avait vu l'élimination de la gauche dès le premier tour, seulement 10% des électeurs, je dis seulement 10% des électeurs, avaient voté pour le candidat le plus proche de leurs convictions.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu. Ils vont donc être 11 ce soir sur le plateau de France 2, mais il n'y aura donc pas de débat, ça va être une succession d'interviews d'un quart d'heure chacune. Chacun se méfie en fait des derniers moments, des derniers propos qui peuvent faire basculer une situation incertaine et très tendue dans un sens ou dans l'autre. Signe aussi sans doute d'une crispation généralisée qu'on peut ressentir ici ou là, qui se traduit par la difficulté pour un grand nombre d'électeurs de simplement supporter finalement le discours de l'adversaire, de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, Stéphane.
Oui, Robert. Il y a une radicalisation d'un certain nombre d'électeurs, avec parfois une grande violence qui s'exprime ou qui a envie de s'exprimer. On le constate dans les meetings avec ceux qui militent pour les différents candidats. Ils affichent parfois leur détestation des adversaires de leur champion avec beaucoup d'animosité. Mais ce n'est pas seulement dans les meetings. On le constate aussi régulièrement dans de nombreuses conversations sur la présidentielle ou sur la situation politique dans laquelle se trouve notre pays. On le constate aussi à travers les messages d'auditeurs que l'on reçoit, qui nous accusent d'être de droite quand on interviewe une personnalité politique de droite et d'être de gauche quand on interviewe une personnalité politique de gauche. Et ils le disent de façon parfois tellement insultante et tellement violente qu'ils donnent l'impression que, selon eux, la seule condition acceptable pour entendre sur cette antenne un discours qui n'aille pas dans leur sens serait que nous exprimions, nous, journalistes, le désaccord qu'ils ont envie d'exprimer. Voilà, on a l'impression que de plus en plus de gens, d'électeurs, d'auditeurs, ne supportent plus d'écouter, même d'entendre, un autre avis que le leur, une autre façon de voir le monde. On pourrait dire en quelque sorte que s'exprime de plus en plus une insupportabilité de l'altérité pour un certain nombre de personnes. L'autre est devenu insupportable. Alors vous me direz qu'il est assez naturel qu'une élection comme la présidentielle génère des animosités et même une certaine rudesse, puisque c'est l'occasion qui est donnée à un peuple tout entier de réfléchir à l'organisation de la société et de donner son avis sur la manière dont on veut la voir évoluer. Mais dans bien des cas, on est au-delà de la rudesse. On a l'impression que de plus en plus s'exprime la tyrannie de l'individu roi qui ne supporte plus autre chose que lui-même ou qu'un autre lui-même. Et on pressent bien que ce sera un problème pour la suite, pour l'après-présidentielle, puisque la gauche ne semble pas prête à accepter une victoire de la droite et inversement, pas plus une victoire du ni droite ni gauche, encore moins une victoire de l'extrême droite. Et c'est là où peut-être notre démocratie est menacée, car elle présuppose que là où les minorités se soumettent et acceptent le verdict de la majorité.
Stéphane Robert, merci beaucoup pour cette analyse. On salue l'invité de la séquence interview qui soutient donc Philippe Poutou, Julien Salingue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur, enseignant en sociologie des médias. Alors, les médias, souvent accusés de partialité, de faire partie précisément d'une manipulation générale dans un sens ou dans un autre. Comment est-ce que vous jugez, vous, cette campagne à cette aune?
Déjà, pour commencer, j'espère que vous n'allez pas vous faire accuser d'être partisan de la gauche radicale, anticapitaliste. Il y a plusieurs choses. La première, c'est s'exprime dans le cadre de cette élection un phénomène qui est un peu plus global et qui précède cette élection. C'est qu'il y a une défiance de plus en plus forte vis-à-vis des grands médias traditionnels. Et du coup, forcément, ça se répercute dans le cadre de l'élection. Et peut-être que ça se polarise un peu plus parce que on parle d'un scrutin avec un enjeu essentiel, d'où peut-être un développement d'argumentations qui sont plus de l'argumentation mais de l'invective en permanence. Dire ça, évidemment, c'est pas justifier les attitudes, mais voilà, c'est pas hors sol ce qui est en train de se passer par rapport aux médias. La deuxième chose, je crois que c'est qu'il y a aussi un ras-le-bol, moi j'ai l'impression, du traitement médiatique classique des campagnes présidentielles, c'est-à-dire que finalement on discute beaucoup des personnes, on discute des sondages sans arrêt, la course de chevaux, qui est devant, qui est derrière, qui pourrait passer devant si tel ou tel sortir, etc. Et du coup ça donne ce que vous disiez au début, c'est-à-dire des responsables politiques qui disent pas votez pour moi parce que je propose ça, mais qui disent votez pour moi parce que comme ça un tel va pas passer, si vous votez pour lui ça va faire qu'au deuxième tour... etc. Et je crois qu'il y a quand même dernière chose, il y a un enjeu important, je pense, après cette élection, à discuter de la place et du rôle des sondages dans les campagnes électorales, la place qu'on leur donne, la place du commentaire autour des sondages, parce que ça transforme l'élection finalement, et on a l'impression que le premier tour c'est déjà joué, et que le premier tour c'est les sondages.
Voilà. Bon, on voit beaucoup de questions qui sont à retenir pour notre entretien tout à l'heure. Julien Salingue, on vous retrouve pour la séquence interview. Alors à propos justement de ces candidats que l'on dit petits, c'est-à-dire ceux que les sondages créditent d'un score très faible, l'heure est souvent maintenant à l'heure des bilans. Ce matin sur LCI, ainsi Jean Lassalle affirme s'être senti utile, mais il ne désespère pas d'un dernier sursaut. On l'écoute.
J'aspire à incarner la France. Vous ne pensez pas que la France a besoin qu'on en rajoute un peu? La France aime en rajouter. Et il faut savoir lui parler. Nous lui parlons aujourd'hui une langue morte, à laquelle elle ne comprend rien. Nous ne faisons plus sourire la France. Et moi, je lui fais la cour à la France, depuis un an et demi. Et j'attends tout doucement qu'elle se rende compte. Ça va venir dimanche. Elle va se rendre compte. Elle va se rendre compte que c'est pas uniquement, c'est une histoire d'amour, mais ça vient au-delà. C'est pour les enfants, c'est pour la suite. Aujourd'hui, c'est terrible, parce que vous ne le voyez pas, mais on prend votre esprit en otage, et vous ne le revoyez plus. Mais on va réussir. Si les Français ne réagissent pas dimanche, mais on va les faire voter une fois de plus pour des anciens premiers ministres, pour des ministres de budget, pour des anciens ministres de gauche. Ils vont le faire. Et tout ça, vous savez pourquoi ? Pour le vote utile. Mais le vote utile, décidons une fois pour toutes qu'on a choisi un des trois et qu'on vote tous utile contre Madame Le Pen. Pourquoi un vote utile en dispersant aussi les voix ? Je sais que la France a peur, qu'elle n'a plus confiance en rien ni en personne, et que je peut lui donner un formidable espoir, tout simplement en état naturel.
Voilà, il l'est, Jean Lassalle avec Audrey Crespo Marat ce matin. Et ce matin encore, devant les salariés du fabricant de confitures et de compotes Andros à Biars-sur-Cère, dans le Lot, François Hollande exhorte le prochain président à ne pas démolir son héritage. Il assure qu'il laisse à son successeur un pays en bien meilleur état que celui qu'il avait trouvé, faisant valoir la hausse record des perspectives d'embauche annoncée par Pôle emploi. Le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, déclare lui qu'il va apporter dans quelques jours la preuve que le régime syrien a bien organisé la frappe chimique sur la ville de Khan Cheikhoun, qui a fait 87 morts le 4 avril dernier. Ma conviction, a-t-il dit, c'est aussi la conviction de nos services que le régime a donc la responsabilité de cette attaque. Parmi les rares sujets internationaux qui ont émergé tout au cours de cette campagne, il y a bien cette situation en Syrie, et notamment le veto russe à la résolution qui demandait une enquête sur l'attaque. Jean-Luc Mélenchon regrette ce matin, par exemple, le veto des Russes, même s'ils devaient, dit-il, avoir leur raison. Quant à Marine Le Pen, eh bien, elle s'est expliquée ce matin sur Europe 1 sur les réserves qu'elle avait exprimées à propos de ce vote à l'ONU.
Je crois que le veto russe est intervenu parce qu'en réalité la résolution était rédigée de telle manière qu'elle condamnait la responsabilité de Bachar el-Assad tout en ouvrant une enquête internationale. Donc c'est quand même assez difficile, avant même que l'enquête ait eu lieu, de prononcer une condamnation. Donc moi je veux...
Mais est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui est dit par le gouvernement français, vous condamnez le régime et vous souhaitez une enquête ?
Le gouvernement français a commis erreur sur erreur depuis des années. Le gouvernement français s'est engagé en Libye. Il a contribué à mettre au pouvoir les fondamentalistes islamistes et à ouvrir d'ailleurs...
Mais là, on parle de la Syrie, Marine Le Pen.
Non mais pardon, je suis en train de vous dire...
Ne parlons pas de ce qui a été fait par le gouvernement français.
Je pense que le gouvernement français a fait une erreur majeure en Syrie, où on a là aussi contribué à renforcer le fondamentalisme islamiste. Il y a eu un événement atroce. Il faut qu'il y ait une enquête internationale. Et moi, je voterais, si j'étais à cette place, pour l'ouverture d'une enquête internationale, mais pas pour la condamnation avant même que l'enquête internationale soit ouverte. Mais, parce que ça, c'est le meilleur moyen, évidemment,
donc,
de se priver
aujourd'hui, vous
de connaître la réalité.
Que le veto et le blocage russe posent problème pour investiguer et comprendre ce qui se passe réellement
oui, mais,
en Syrie.
D'accord. Alors, il faut présenter une résolution qui soit plus claire, d'ouverture d'une enquête, mais sans condamnation préalable. Voilà, c'est aussi simple que cela.
Marine Le Pen, donc avec Fabien Namias ce matin. Julien Salingue, peut-être un petit mot là-dessus. Il y a une certaine logique à dire on ne va pas condamner avant d'avoir fait l'enquête. Qu'est-ce que vous répondez ?
Je ne sais pas si Marine Le Pen est logique, mais quand on entend ce qu'elle dit sur les fichiers S ou les gens suspectés de terrorisme qu'il faudrait enfermer préventivement, là, elle ne demande pas d'enquête. Donc visiblement, les enquêtes, ça vaut quand il s'agit de défendre les régimes autoritaires qui sont des alliés de Marine Le Pen, et notamment les Russes qui soutiennent Assad. Mais quand il s'agit de discuter de la justice en France, visiblement, les enquêtes, elle n'est pas forcément pour, et y compris, elle n'est pas pour répondre aux convocations de la police. Donc à partir de là, on sent bien qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et d'islamophobie dans tout ça.
Julien Salingue, on vous retrouve dans quelques minutes.
France Culture, midi 45, la suite du journal d'Antoine Mercier. Autre thème qui a débordé dans la campagne, c'est la situation au Venezuela. Jean-Luc Mélenchon a demandé ce matin à Caracas de relâcher deux journalistes français partis faire un reportage pour l'agence CAPA et emprisonnés depuis le 11 avril.
Et oui, les manifestations contre le gouvernement Maduro se multiplient dans le pays, dans un pays qui est plongé dans une grave crise économique. Manifestations émaillées d'ailleurs de heurts très violents avec la police. Il y a 8 personnes qui ont été tuées, plusieurs centaines arrêtées en 3 semaines. L'opposition, qui est majoritaire au Parlement, réclame maintenant le départ anticipé du président socialiste Nicolas Maduro, qui est le successeur, rappelons-le, d'Hugo Chavez. Nadine Epstein.
Oui, l'opposition vénézuélienne retrouve un nouveau souffle avec ses mobilisations massives. Après les élites et la classe moyenne, les anti-Maduro bénéficient aujourd'hui maintenant de la colère de Vénézuéliens plus défavorisés. Tous ceux qui, après avoir bénéficié des programmes sociaux d'Hugo Chavez, peinent en ce moment dans leur quotidien. Une jeune femme raconte comment sa fille vient de mourir à l'hôpital où elle avait été admise pour des vomissements et des diarrhées. On lui a injecté de la pénicilline, seul médicament disponible, mais elle y était allergique. Ou encore, ce trentenaire, nous n'avons rien à manger dans le frigidaire, j'ai un enfant de 2 ans et je suis au chômage, tout ça pas la faute de Maduro. Selon un sondage, 7 Vénézuéliens sur 10 souhaitent le départ du président, coupable de l'augmentation des pénuries. Mais Nicolas Maduro entend se maintenir au pouvoir, il promet, je cite, des élections pour bientôt, pour gagner définitivement la bataille. Mais pour l'instant, le gouvernement arme des collectivos, des groupes de civils, et il mobilise des milliers de policiers et militaires. Et les manifestations dégénèrent vite en affrontements, gaz lacrymogène et balles en caoutchouc contre pierres et cocktails Molotov. Depuis le début du mois, au moins 8 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres arrêtées. Dernier point, les autorités vénézuéliennes ont saisi l'usine de General Motors à Valencia, dans le nord du pays. La filiale du constructeur américain s'inquiète de cette mesure qu'elle considère illégale et déplore les dommages causés pour la société, ses 2678 employés et ses 79 distributeurs et fournisseurs.
Merci Nadine Epstein. Au Pakistan, a signalé que la Cour suprême ordonne ce matin de plus amples investigations sur les accusations de corruption qui visent le Premier ministre Nawaz Sharif, qui est mis en cause dans les Panama Papers notamment, sans pour autant demander sa destitution.
Le procès d'une vingtaine d'hommes suspectés d'appartenir à la filière djihadiste dite de Cantorcy s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale de Paris, Antoine.
Oui, attentat contre une épicerie cachère, c'était en 2012. Un projet d'attaque contre des militaires, aussi des départs en Syrie. Nous sommes 3 ans avant les attentats de Paris de 2015. Cette cellule avait été décrite par les services antiterroristes comme la plus dangereuse qui avait jamais été démantelée en France depuis les attaques du GIA algérien. C'était cette fois dans les années 90. C'est une filière qui s'annonce, qui annonçait en tout cas les mutations du terrorisme français. Florence Turm était au procès ce matin.
Ils sont 10 à avoir pris place dans le box des accusés face à cette cour d'assises qui s'est donnée 3 mois pour ce premier grand procès d'une filière djihadiste en France. 10 détenus sur 20 accusés, 7 comparaissent libres sous contrôle judiciaire, les 3 derniers sont en fuite, l'un sans doute mort sur la zone de combat dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Jérémy Louis Sidney, celui que l'on considère comme le meneur, l'émir du groupe et l'un des auteurs de l'attentat de Sarcelles, ne sera pas jugé, abattu par les policiers sur qui il a ouvert le feu lors de son interpellation. 20 accusés de 23 à 33 ans, 20 profils et origines différents, entre le fils de famille bourgeoise du 8e arrondissement parisien, un jeune laotien aux parents bouddhistes, les enfants d'un ancien ministre congolais, un autre encore, mère catholique et père juif non pratiquant, d'autres issus de familles musulmanes. Certains au passé délinquant chargé, certains au casier judiciaire vierge. Des centaines de kilomètres les séparaient au départ entre les mosquées de Cannes et Torcy avant qu'un séjour fondateur ne les réunissent au cours de l'été 2012 en camping-car dans le sud de la France. 20 hommes désormais regroupés au sein de la filière Cantorcy, considérée comme la plus dangereuse démantelée avant les attentats de Charlie Hebdo, une filière qui porte aussi les germes du terrorisme de l'État islamique qui a depuis lourdement frappé en France 20 accusés qui risquent entre 10 ans d'emprisonnement et la réclusion criminelle à perpétuité.
12h49, l'invité de la séquence interview, nous revenons vers vous, Julien Salingue, donc professeur en sociologie des médias et soutien de Philippe Poutou, interrogé par Ludovic Piétenu.
Et à quelques heures du prochain débat de cette émission politique ce soir sur France 2, Philippe Poutou, on se souvient, Julien Salingue avait recueilli énormément de soutien lors du dernier exercice cathodique, en mettant en cause Marine Le Pen, cette phrase, nous n'avons pas, nous, d'immunité ouvrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il a démontré ce soir-là qu'il y avait finalement plus hors système que celle qui se prétend la candidate hors système?
Ah oui, c'était finalement la force de l'intervention de Philippe Poutou vis-à-vis de Marine Le Pen, c'était de la prendre entre guillemets de biais, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas pris sur le thème vous êtes raciste, vous êtes xénophobe, vous êtes, etc. Il l'a pris sur son terrain de prédilection à elle, de dire en fait vous êtes dans le système. Vous le dénoncez, vous vous construisez soi-disant à l'extérieur, mais quand on regarde de près, quand vous pouvez en bénéficier, eh ben vous tapez dans les caisses, et quand vous pouvez vous protéger derrière les lois du système, vous vous protégez derrière les lois du système, et ça, nous, Nous, on ne peut pas.
Ce mot système, on l'emploie tout le temps dans cette campagne. Ouais. Peut-être qu'à chaque fois, il faut préciser ce dont vous parlez.
Ah ben nous, on nomme les choses. Et c'est ça la différence aussi avec d'autres candidats qui se disent anti-système. Nous, on parle d'un système qui s'appelle le système capitaliste et qui a des institutions politiques, juridiques, etc. Quand on parle de système, c'est pas quelque chose de global, mais flou ou indéfini. C'est on nomme les choses, un système d'exploitation, d'oppression et des dispositifs institutionnels de contrôle des populations qui permettent à certains, par contre, de bénéficier de traitements de faveur, dont effectivement Marine Le Pen.
Et Jean-Luc Mélenchon, il en fait partie ?
Jean-Luc Mélenchon est un produit, en réalité, du système politique, avec les contradictions de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est quelqu'un qui, depuis plus de 30 ans, est un élu, donc ce que Philippe appelle un politicien professionnel. Et quelque part, ce qu'il propose aujourd'hui, et je dis les pleins de contradictions, c'est il dit d'un côté, avec moi, ça sera des nouvelles institutions, mais en même temps, il s'appuie au maximum sur la Ve République, le présidentialisme, la personnalisation, et il en joue énormément, ce qui ne va pas sans susciter, on va dire, de questionnements sur la suite par rapport à ce qu'il propose.
Ludovic Pietel.
Est-ce qu'il ne s'est pas néanmoins inscrit en rupture ? On voit que la candidature de Mélenchon 2017 n'est pas celle de Mélenchon 2012, par exemple. Donc est-ce que vous pouvez lui accorder au moins le mérite de l'évolution ou d'une mise hors système ?
Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un adversaire pour nous, pour le dire très clairement. Finalement, bon, on peut porter des appréciations sur sa trajectoire. Il y a des différences avec la candidature de 2012, peut-être en partie dans le rapport, aux institutions et aussi sur le plan du programme économique. Mais il y a aussi des différences par rapport à 2012 sur des questions qui pour nous sont essentielles. Par exemple, l'augmentation du SMIC qui était proposée en 2012 était plus élevée que celle qu'il propose en 2017. Par exemple, la politique vis-à-vis de l'accueil des migrants et de la régularisation des sans-papiers était entre guillemets plus généreuse en 2012 qu'elle ne l'est en 2017.
Il s'arrondit trop, en fait, à vouloir aller chercher une majorité.
Disons qu'il y a quand même, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon et dans une série de ses propositions et dans sa façon de faire de la politique, on sent bien qu'il y a quand même une montée par rapport à 2012, des réflexes, on va dire, chauvins, très valorisation de la République, la France, une et indivisible. Bon, c'est des choses qu'on connaissait déjà, mais là, à partir du moment où il s'est autonomisé, y compris du Parti communiste, y compris des partis qui existaient dans le front de gauche, on sent qu'il y a un certain naturel qui reprend le dessus. Mais voilà, je dis, nous, c'est pas un adversaire, mais on a des choses à proposer dans cette élection. Et je pense que le débat du 4 avril avait montré qu'il y avait une différence nette entre la candidature de Philippe Poutou et les autres, alors, y compris celle de Mélenchon.
C'est la lutte contre le système capitaliste, on l'a compris. Est-ce qu'il va si mal, ce système ? Bon, François Hollande disait ce matin, ça va mieux, mon successeur aurait une situation bien meilleure que celle que j'ai trouvée. Bon, vous allez me dire que vous n'y croyez pas naturellement, mais est-ce que, sérieusement, le capitalisme est vraiment en crise ou est-ce qu'il continue à avoir des crises successives qui finalement font que le système se poursuit ?
Ah non, mais
il y a une souplesse extraordinaire.
Le système capitaliste, et même Marx l'écrivait déjà, c'est-à-dire qu'il y a des crises structurelles dans le système capitaliste. Et c'est pas parce qu'il est en crise qu'il va s'écrouler naturellement. Mais disons que ces crises, qui en général sont des crises de surproduction, c'est-à-dire qu'on produit trop, on n'arrive plus à vendre, et donc du coup ça fait perdre.
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est dans une crise parce qu'il y a des millions de gens qui, tout simplement, n'ont pas assez de revenus, n'ont pas assez de salaires, n'ont pas assez d'argent disponible pour, entre guillemets, contribuer à faire fonctionner ce système. Il faut quand même se rappeler que tout ça part des États-Unis, les prêts hypothécaires, des gens qui ne peuvent pas rembourser en réalité leur maison, qui se font saisir leurs biens, et ça crée des écroulements au niveau de la bourse aux États-Unis, et il y a une réaction en chaîne à l'échelle internationale. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est pas la crise pour tout le monde. Voilà, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Les profits du CAC 40 augmentent, le nombre de milliardaires augmente, et dans le même temps, le nombre de pauvres augmente et le nombre de chômeurs augmente aussi. Et nous, c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui.
Vous dites la société est plus violente aujourd'hui, c'est ce que disait Philippe Poutou hier soir lors de son dernier grand meeting de campagne à Aubervilliers. Notre camp social, pour nous, disait-il, c'est dur, on a une société plus violente. Et il nous dit aussi qu'il arrête face à cela. Il dit, moi, une troisième candidature en 2022, j'y retourne pas. Parce qu'il a connu 2012, il voit 2017. Il dit, c'est trop violent, finalement, pour lui. C'est une forme de démission de la part du candidat.
Pas du tout. C'est pas la raison principale. C'est que il y a quelque chose qui est identitaire, entre guillemets, dans la candidature de Philippe Poutou, c'est nous, on n'est pas là pour faire de la politique professionnelle. Nous, on pense que les gens doivent faire de la politique eux-mêmes, se représenter eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on dit voter pour l'un des vôtres du camp des salariés.
Donc ça peut être vous dans 5 ans,
par exemple. Il n'y a aucune raison qu'ils reviennent une troisième fois, ça sera quelqu'un d'autre. De même que Olivier Besancenot avait fait 2 candidatures, Philippe Poutou a fait 2 candidatures. Nous, on est pour la rotation des mandats, on est pour la déprofessionnalisation de la politique, et ben on se l'applique à nous-mêmes, parce que contrairement à bien d'autres, y compris candidats à cette présidentielle, quand on prône un certain nombre d'exigences politiques, ben on commence par se les appliquer à nous.
On a dit qu'il y avait une grande différence avec Florence Artaud, c'est... Nathalie Artaud, c'est la laïcité, est-ce que c'est vrai, entre Poutou et elle?
Ça fait partie des différences qu'on peut avoir avec Lutte ouvrière, mais disons que aujourd'hui, nous, on est moins là pour essayer de chercher la petite bête avec Lutte ouvrière que plutôt de se réjouir d'avoir réussi à doubler le temps de parole, des candidats qui représentent un peu mieux le monde des salariés que ne le font les politiciens professionnels et les représentants des banques et des actionnaires.
Julien Salingue, merci beaucoup. Vous étiez donc avec nous pour soutenir Philippe Poutou. On l'a entendu dans cette édition. Un tout dernier mot pour vous dire que le PDG du groupe, finalement, Lagardère, Arnaud Lagardère, annonce ce matin dans un entretien au Monde qu'il va reprendre la présidence d'Europe 1 après de mauvais chiffres d'audience à la place de Denis Oliven, sur fond donc de chute de l'audience de la station. La météo du soleil sur l'ensemble des régions, sauf en Corse, des températures qui vont de 10 à 19 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Bénédicte Robin.